C'est le journal de Sébastien Legenny. Bonjour Sébastien.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ce matin, reportage au pays des europhobes à 5 jours du scrutin européen. Direction la Grèce en début de journal. La Grèce frappée de plein fouet par la crise et dont les électeurs ont totalement perdu confiance en l'Union européenne. Nous serons à Athènes dans un instant. Nouveau coup de théâtre dans l'affaire Vincent Lambert. Contre toute attente, la Cour d'appel de Paris a suspendu l'arrêt des traitements qui avait commencé hier matin. Les lois sur la fin de vie sont-elles en cause? Élément de réponse dans ce journal. Dans l'actualité également, la mort d'une légende de la Formule 1, Niki Lauda, décédée hier à l'âge de 70 ans. On parlera aussi d'une réflexion du gouvernement afin d'aider les plus pauvres à acheter une voiture neuve, d'un scanner pour sonder l'âme des œuvres du Quai Branly et du premier stade Blaise Matuidi, inauguré hier à Agnières.
Je vous rappelle que l'invité d'Alexandra Ben Saïd, dans 20 minutes à 7h50, est aujourd'hui le président du Comité consultatif national d'éthique, Jean-François Delfrécy.
France Inter.
Quand les citoyens, Sébastien, divorcent avec l'Europe, c'est l'histoire de la Grèce, pays devenu le plus europhobe de tout le continent.
Oui, on poursuit ce matin sur France Inter notre tour d'Europe des campagnes électorales à 5 jours du scrutin européen. Après l'Italie hier, nous partons donc ce matin pour le berceau de la démocratie européenne, la Grèce, frappée en 2008 par une crise économique sans précédent. Après 10 ans de plan d'austérité, le pays relève lentement la tête, mais les Grecs restent traumatisés par les plans de sauvetage de la Commission de Bruxelles, au point qu'aujourd'hui 70% d'entre eux n'ont plus confiance en l'Union européenne, selon l'Eurobaromètre, le pire score des 28 pays de l'Union. La gauche au pouvoir, Syriza, le parti du Premier ministre Alexis Tsipras, devrait donc subir un très lourd revers électoral dimanche prochain. Reportage à Athènes d'Audrey Tison.
Dans les allées du marché, le premier sujet de conversation, c'est l'interminable crise économique. Alors, quand on prononce le mot « Europe » devant les étals des pêcheurs,
je ne veux plus entendre parler de l'Union européenne.
Elle aurait notamment imposé de multiples hausses de taxes. Yanis sait pour qui il va voter.
Pour des gens qui aiment vraiment la Grèce, un parti nationaliste. Parce qu'avec l'Europe, moi et ma famille, on ne verra aucun changement.
Pas question de donner sa voix à Syriza, la gauche au pouvoir, responsable de l'austérité, ni au principal parti de droite qui l'a précédé. Ce discours, il est partagé par de nombreux jeunes.
Ah non, je ne voterai jamais pour eux. Ils ont prouvé qu'ils ne tiennent pas leurs promesses et qu'il n'y a pas de réelle idéologie politique derrière.
Quand Katerina, 18 ans, s'intéresse aux élections, c'est pour assister à une réunion publique d'un eurodéputé clairement eurosceptique. Notis Marias espère être réélu.
Actuellement, les principales décisions sont prises par la Banque Centrale Européenne et par l'Eurogroupe. On doit donc changer les institutions pour pouvoir demander des comptes et avoir une plus grande possibilité de participer.
Ne plus subir le diktat de Bruxelles, c'est ce que promettent presque tous les partis grecs, avec plus ou moins de crédibilité.
Le reportage d'Audrey Tison à Athènes. D'après les sondages, la droite grecque devrait arriver en tête avec 35% des intentions de vote, suivi de la gauche avec 24%. L'extrême droite de l'Aube Dorée est donnée troisième à 7,5%. Et puis dans l'actualité européenne, toujours nouvelle secousse en Autriche. Hier, 4 jours après le scandale provoqué par la vidéo où l'on voit le patron du FPE, le parti d'extrême droite, se compromettre avec une supposée oligarque russe. Et bien hier, c'est le ministre de l'Intérieur, ancien secrétaire général du FPE, qui a été limogé à son tour, une démission suivie de celle de tous les autres ministres d'extrême droite.
Il est 7h34, les traitements administrés à Vincent Lambert, Sébastien, devraient reprendre ce matin au CHU de Reims.
Vincent Lambert, dont les médecins avaient pourtant arrêté l'alimentation et l'hydratation hier matin. En 24 heures, retournement de situation totale. Les parents de Vincent Lambert avaient saisi la cour d'appel de Paris pour faire cesser ce processus. Et à la surprise générale, les juges leur ont donc donné raison tard hier soir. Sur le fond, les magistrats ont estimé qu'il fallait attendre que se prononce le comité de l'ONU pour les droits des personnes handicapées, saisi par les parents. Pour Jean-Luc Romero, le président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, cet énième revirement montre les lacunes des lois sur la fin de vie.
C'est terrible parce que là, tous ces rebondissements, moi je pense à Vincent Lambert, je pense à cette famille qui se déchire et c'est affreux. Mais ça, moi je le dis depuis longtemps, qu'est-ce que vous voulez dire, je ne vais pas m'en réjouir, mais combien de fois j'ai dit qu'il fallait changer la loi et notamment sur cette question-là, on a cette affaire qui dure depuis plusieurs années. J'ai proposé notamment à M. Leonetti un amendement pour faire qu'on copie la Belgique, où il ne pourrait pas y avoir d'affaire Vincent Lambert, parce que tout simplement on a prévu qui décide quand il n'y a pas de directive anticipée, quand il n'y a pas de personne de confiance et quand la personne n'est plus en mesure de dire ce qu'elle veut, c'est la femme ou le conjoint qui en premier décide s'ils sont là. Et s'il y a des parents, ils ne peuvent pas s'opposer à la décision du conjoint.
Jean-Luc Romero avec nos confrères de France Info, un coup de théâtre juridique à retrouver sur franceinter.fr. En économie, un rappel, Ford va supprimer 7000 emplois à travers le monde d'ici la fin du mois d'août, soit 10% de ses effectifs. Une vaste restructuration pour faire face à la baisse des ventes de berlines et de citadines aux États-Unis notamment. Aucune information détaillée à ce stade sur l'impact de ces licenciements en Europe. Et puis toujours dans l'actualité automobile, l'augmentation des prix du contrôle technique en France, c'était l'un des griefs des Gilets jaunes. Un ressenti confirmé par une étude faite auprès de 3600 prestataires. Les tarifs du contrôle technique ont augmenté de 12,3% depuis la réforme de l'an dernier. Autre grief des Gilets jaunes, commence à acheter une voiture neuve quand on est un travailleur pauvre. Eh bien, le gouvernement réfléchit à une solution. L'inspection générale des finances pourrait bientôt plancher sur une offre de microcrédit pour permettre aux plus démunis d'acheter un véhicule afin de trouver ou de garder un emploi. L'exécutif pourrait notamment s'inspirer du modèle développé par l'incubateur Action Tank. Les explications de Manuel Ruffez.
C'est l'effet pervers pour le travailleur pauvre qui ne peut pas se passer de voiture, qui n'a pas d'autre choix que d'en acheter une d'occasion, forcément plus usée, et qui au bout du compte risque bien de lui coûter plus cher. Voilà le constat de départ du directeur d'Action Tank, Jacques Berger.
Les véhicules plus anciens sont des véhicules qui consomment plus, qui ont plus d'accidents mécaniques et qui, de plus, vont se trouver dans l'obligation réglementaire de procéder à des contrôles techniques et des choses comme ça. Donc, on est dans une situation paradoxale où les plus pauvres vont payer le kilomètre d'automobilité plus cher que les plus riches.
Alors, en partenariat avec Renault, Action Tank a eu l'idée d'utiliser le système du microcrédit pour l'achat de ces véhicules neufs pour servir de caution et de garantie.
C'est l'organisme de microcrédit qui va payer une partie des mois de location d'avance et la personne qui va se retrouver avec le véhicule remboursera l'organisme de microcrédit. De cette manière-là, une partie du risque qui pèse sur le prix est transférée à l'organisme de microcrédit pour que le montant du loyer mensuel soit le plus bas possible.
Et Action Tank l'a vérifié, l'achat d'un véhicule neuf fait bien baisser le budget mobilité et permet effectivement un retour ou un maintien dans l'emploi.
Manuel Ruffez du service économique de France Inter. Autre réforme envisagée par le gouvernement, la réorganisation des agences de l'État, des agences multiples, 1200. Selon une circulaire du gouvernement, le Premier ministre veut donc faire le ménage et demande à chaque ministère de justifier l'existence des agences employant moins de 100 personnes à temps plein.
Il est 7h38 quand la technologie, Sébastien, permet de percer le secret des œuvres les plus mystérieuses.
Oui, comment savoir ce qu'il y a dans certains objets ethnologiques. Comment savoir si telle ou telle œuvre est fragilisée par des champignons? Les chercheurs n'ont pas trouvé meilleur moyen que de les scanner. Le musée du Quai Branly a donc installé pour la première fois au monde un scanner portatif au sein même de l'établissement. Près de 150 œuvres ont été passées au crible, dont une trentaine directement dans l'espace des expositions. Sophie Bécherel.
Il passe là, tu penses, Céline, t'es sûre ?
Ce sont le plus souvent des objets magiques et impressionnants, comme ce fétiche à clous de la République démocratique du Congo ou ce boli du Mali, une sculpture croûtée dont la forme rappelle un bovidé et dotée de pouvoirs pour protéger une famille ou un clan.
Ça renferme des objets sacrés.
Philippe Charlier est le directeur de la recherche au musée du Quai Branly.
Quand on veut en casser complètement le pouvoir magique, il faut le briser. Et évidemment, c'est totalement impensable pour tout anthropologue qui se mérite.
Passé au scanner, le boli révélera à la fois son contenu mais aussi son état de santé. Et c'est tout l'intérêt de ces rayons ionisants, traverser la matière et donner des informations pour d'éventuelles restaurations. Éléonore Kissel, responsable du pôle conservation-restauration.
Nous avons numérisé un masque à transformation d'Amérique du Nord qui, au premier regard, a l'air de se porter très bien et qui en réalité comporte un très grand nombre de galeries d'insectes qui se trouvent juste sous l'épiderme du bois. Le scan va nous aider à savoir où il va falloir injecter de la colle ou une résine ou un consolidant quelconque.
Autorisée par l'autorité de sûreté nucléaire, l'opération, une première mondiale, devrait être renouvelée une seconde fois. Les données qui nécessiteront ensuite un an d'analyse feront l'objet de publications, y compris à destination du grand public.
Sophie Bécherel, un mot de sport. L'histoire commune se poursuivra la saison prochaine. Ce sont les mots du Paris Saint-Germain dans un communiqué publié hier soir sur Twitter. Une façon de fermer le banc après les déclarations ambiguës de Kylian Mbappé.
Et du foot encore, Sébastien, avec ce stade rebaptisé du nom d'un champion du monde.
Le premier stade Blaise Matuidi, le champion du monde, a été accueilli hier à Agnières-sur-Seine où le stade Léo Lagrange va donc prendre son nom, le nom de Blaise Matuidi. Des centaines d'enfants lui ont fait honneur dans une ambiance chaleureuse et parfois un peu chaotique, Guillaume Batin.
Blaise Matuidi a eu droit à une véritable ambiance de Coupe du Monde à son arrivée. Un bain de foule à la hauteur du palmarès du champion du monde avant de dire quelques mots dans le stade qui porte désormais son nom.
J'ai moi-même évolué dans des stades comme ça et avec plein d'envie, plein d'ambition et c'est ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc j'espère que pour les plus jeunes, vous aussi, vous allez croire en votre destin et surtout par le travail et la volonté.
Le maire d'Agnières-sur-Seine, Manuel Eschliman, va aussi solliciter Blaise Matuidi pour mener des projets d'insertion par le sport avec l'association Tremplin.
Oui, justement, voilà, c'est ce qu'on veut mettre en avant. C'est quand on a un joueur exemplaire avec une très belle carrière, mais aussi un homme très, très ouvert, très gentil, très disponible, un vrai humaniste. Je pense que c'est vraiment les très beaux aspects du sport et c'est pour ça que, en ma qualité de maire et nous, Ville d'Agnières, on veut vraiment mettre ça en avant.
Mais le moment de communion a vite dérapé lorsque le rappeur Gradur vient saluer le footballeur, lui volant la vedette. Les jeunes d'Agnières ouvrent les grilles de protection, le stade est envahi et Blaise Matuidi dit au revoir dans la panique une fois assis dans sa voiture.
Merci la Ville d'Agnières, c'était super. À bientôt.
Ciao, ciao.
Agnières-sur-Seine, Guillaume Batin, France Inter.
Il a beaucoup déçu, mais aussi fait un carton d'audience. Le 73e et dernier épisode de Game of Thrones a battu le record d'audience de la série et de l'histoire de la chaîne HBO qui la diffuse depuis 2011 avec 19 millions de téléspectateurs rassemblés pour la conclusion de la saga. C'est pas mal.
Merci Sébastien Legénie.